écoutez bien le psaume 25. C'est de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Donc, vous l'avez entendu, ce psaume est une prière pour connaître les voies de Dieu, pour être conduit par Dieu dans nos choix et dans notre parcours de vie. Ce psaume, c'est un acrostiche, c'est le premier des psaumes acrostiches dans le psautier. Chaque strophe commence avec une lettre de l'alphabet hébreu. Et chaque petite strophe, on pourrait dire, tourne autour de ce thème qui est au cœur du psaume, que vous l'avez vu, notamment dans les versets du milieu surtout, d'être conduit par Dieu, de trouver ses voies. Par exemple, versets 4 et 5, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Conduis-moi. Ou encore, versets 8 à 10, l'Éternel montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Ou verset 12, qui est très fort. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, c'est une prière qui convient en tout temps, et notamment en ce temps de rentrée. Votre emploi du temps est en train de s'établir. Vous êtes face certainement à des choix qui peuvent aller aux petits détails jusqu'aux grandes orientations. Et c'est pourquoi ce psaume peut nous inspirer et nous aider ce matin. C'est une des grandes particularités de l'existence humaine par rapport aux arbres, aux animaux. C'est que nous, les êtres humains, nous faisons constamment des choix et ces choix ont des conséquences. Alors c'est normal de vouloir être guidé et de vouloir être orienté dans la vie, et c'est la prière de ce psaume. Et j'aimerais ce matin vous recommander grandement l'attitude qu'on trouve chez David ici, où cette attitude marque sa vie, et sa vie de prière, où il peut demander à Dieu, « Fais-moi connaître tes voies, conduis-moi dans tes sentiers, montre-moi la voie que je dois choisir. » C'est une belle attitude de vie, que nous devons tous apprendre à adopter, finalement se poser les questions, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Souvent, nous réfléchissons en termes personnels, mais nous voulons apprendre ce réflexe, cette attitude, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Et si Dieu nous a inspiré une telle prière, un tel cantique, où on demande à Dieu de lui faire connaître ses voies, c'est sûr qu'il veut exaucer cette prière et il veut nous révéler ses voies, il veut nous aider à choisir la voie à suivre. Alors ce matin, nous allons réfléchir comment choisir la bonne voie, comment choisir les voies que Dieu a en réserve pour nous, comment marcher dans ses sentiers. Et tout d'abord, j'aimerais voir avec vous des mauvaises méthodes que nous, les chrétiens, souvent, nous essayons de discerner la voix de Dieu. Nous sommes conscients qu'il a une volonté pour nous et nous la cherchons, mais parfois, nous faisons mal pour trouver cette voie. Alors, quelques mauvaises méthodes pour discerner la voix de Dieu. Tout d'abord, il y a la méthode de l'urgence. Selon cette méthode, on prie, on vient à l'église ou on pense à Dieu uniquement lorsque nous avons urgemment besoin d'une réponse ou d'une intervention de sa part. Cette méthode de trouver la bonne voie voit Dieu comme un agent SNCF en gilet rouge dans une gare un jour de grève. Le reste du temps, on n'a pas besoin de lui, on se débrouille tout seul. Mais là, quand il y a des problèmes, là, il faut se tourner vers Dieu. Mais David, ce n'est pas ainsi qu'il a vécu sa vie. Il n'a pas uniquement élevé son âme à Dieu, comme dit le verset 2, uniquement quand il avait une choix importante à faire. David vivait constamment une relation avec Dieu. Il dit à la fin du verset 5, « Tu es toujours mon espérance. » Tu es toujours mon espérance, pas uniquement dans les cas d'urgence. Ou verset 15 encore, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. » Et ça, c'est important si nous voulons marcher dans les voies de Dieu et discerner et faire les bons choix. Comme l'élève fait mieux d'étudier sagement et régulièrement tout au long de l'année que de se réveiller paniqué la veille de l'examen, eh bien, discerner les voies de Dieu, c'est un peu pareil. C'est plus une attitude de vie qu'une démarche ponctuelle dans les urgences. Seigneur, là, secours-moi. Alors, évidemment, Si vous n'avez pas l'habitude de chercher auprès de Dieu sa voix et que vous vous trouvez dans une impasse, une situation urgente et grave, et il est fortement recommandé de se tourner à Dieu dans ces moments-là. Il utilise des urgences de notre vie pour se révéler à nous et pour nous attirer à lui. Mais après, il faut apprendre à ne pas uniquement avoir un recours à lui et à demander sa volonté quand il y a des urgences. Ensuite, il y a la méthode superstitieuse que je ne conseille pas. Alors, les chrétiens, c'est sûr, ne pratiquent pas l'horoscope, la voyance, l'alignement des astres pour s'orienter dans la vie. Nous reconnaissons assez facilement qu'il s'agit des pratiques idolâtres, parfois occultes et dangereuses. Mais parfois, certaines de nos pratiques et de nos habitudes frôlent la superstition. Ceux qui ouvrent la Bible au hasard pour chercher une réponse à telle chose dans la journée. Ceux qui accordent du poids à leurs rêves. Ceux qui appliquent des versets qui sont tirés hors contexte pour telle ou telle situation. En fait, ces méthodes-là voient Dieu comme une boule magique à qui on lui demande des questions simples, oui ou non, et il est tenu de nous donner une réponse immédiatement. Mais le problème avec ces méthodes superstitieuses, le problème de voir Dieu comme une boule magique, c'est que souvent, on arrive à obtenir des réponses qui nous conviennent de toute manière. Vous savez, ce qui demande à la boule magique, est-ce que je devrais aller à l'école aujourd'hui, j'ai pas envie. La boule dit oui, ah mince. Donc on recommence jusqu'à ce que ça dit non et puis ça nous convient. Voilà le problème avec les méthodes superstitieuses. Souvent, on a déjà en tête ce que nous voulons et nous la cherchons jusqu'à nous la trouvons. Donc, à éviter les méthodes superstitieuses qui voient Dieu comme une boule magique qui doit répondre à toutes nos questions. Une autre méthode à ne pas suivre pour discerner la volonté de Dieu et ses voies pour nous, c'est la méthode sentimentale. Et là, il s'agit d'utiliser des sentiments assez subjectifs, des indications sentimentales à l'intérieur de notre vie, de notre pensée, de notre cœur, pour s'orienter et pour discerner la volonté de Dieu. Vous entendez parfois des personnes dire, voilà, je n'ai pas la paix dans mon cœur, alors j'avance pas. Tant que je n'ai pas la paix dans mon cœur, c'est certainement pas la volonté pour Dieu, pour moi. Alors, il est évident que Dieu utilise des convictions que nous pouvons avoir, qui viennent d'étudier sa parole, qui agit, qui nous offre à tous une paix dans notre cœur, de marcher dans ses voies. Mais ces sentiments subjectifs ne doivent pas être le maître de nos choix. Je me demande pas si David, par exemple, avait-il la paix dans son cœur quand il devait affronter Goliath. Et pourtant, il est allé affronter Goliath parce que c'était la volonté de Dieu. Jésus avait-il la paix dans son cœur quand il marchait vers la croix? Même, on sait que Jésus était angoissé. Il ne s'est pas laissé diriger uniquement par la paix de son cœur. Vous entendez parfois des personnes dire, « Dieu veut que je sois heureux », ce qui n'est pas faux, mais « Dieu veut que je sois heureux, mais je ne suis pas heureux dans mon mariage, alors certainement il veut que je parte. » Mais là encore, c'est suivre des sentiments subjectifs et des pensées au lieu d'une volonté que Dieu nous a déjà donnée. Donc la méthode sentimentale n'est pas la meilleure. Une autre méthode, je les affiche maintenant, une autre méthode, c'est la méthode que j'appelle religieuse, parce que beaucoup de religions fonctionnent ainsi, et c'est de réfléchir à la volonté de Dieu ainsi, c'est de se dire, si la vie me sourit, si tout baigne dans ma vie, c'est que j'étais sage, je l'ai mérité, et je suis dans la volonté de Dieu. Mais si je rencontre des pépins, des obstacles, des épreuves, alors là aussi, je les ai mérités, et Dieu doit certainement être fâché avec moi. Alors ça fait que si une maladie, ou si un accident, ou si une difficulté nous arrive, on se dit, c'est forcément signe que j'ai fait une bêtise, ou que Dieu ne m'aime pas, ou que je suis dans une mauvaise voie. Cette méthode voit Dieu comme un membre du jury d'une émission comme « La France a un incroyable talent », toujours sur le point d'appuyer son buzzer pour nous éliminer. Et tant qu'il ne nous a pas éliminés, c'est qu'on fait bien, on a du talent, on a du mérite, mais s'il nous élimine, c'est qu'on a raté quelque chose. Mais ce n'est pas ainsi de discerner la volonté de Dieu pour nous. D'ailleurs, David, ici, on le voit, il se trouve dans la détresse. Les premiers versets et les derniers versets correspondent. Et il est aussi dans la détresse. Il est visiblement embêté par des ennemis. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne marche pas dans les voies de Dieu. Il suffit de regarder la vie de David. Il est souvent embêté par des ennemis. Sa vie, souvent, est difficile, éprouvante. Mais dans ces moments difficiles, il peut savoir que Dieu est là, que Dieu l'aime. Et nous apprenons, comme dit le verset 10, que finalement pour nous, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Si Dieu vous fait passer par un sentier, même difficile, il n'est pas en train d'abandonner sa miséricorde et sa fidélité à votre égard. Donc le système religieux de mérite, où on juge tout d'après nos circonstances, que nous pensons avoir méritées, les bonnes parce que nous avons été sages, les mauvaises parce que nous n'avons pas été sages, ne convient. Cette manière de comprendre la vie n'explique pas la vie de David, n'explique pas la vie de Jésus. Et enfin, une dernière méthode à ne pas utiliser pour discerner la voix de Dieu pour nous, c'est ce que j'appelle la méthode paralysante. Et là, on est devant un choix. Et on se dit, si je fais cette choix-là, je rate celle-là. Mais si je fais celle-là, je rate celle-là. Alors, je ne peux rien faire. Par exemple, si je choisis cette épouse, je vais rater toutes les autres. Alors mince. Mais oui, ça marche comme ça. Et c'est plutôt bien. Cette méthode voit Dieu comme un vaste supermarché avec un choix illimité de produits. Et on est bloqué dans le rayon. Pour des heures, parce qu'il y a tellement de choix et on ne sait pas quoi choisir. Beaucoup sont paralysés par cette méthode en se disant, si je fais un mauvais choix, là, je vais bousiller le plan de Dieu pour ma vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que vous ne pouvez pas bousiller le plan de Dieu pour votre vie. Ça vous est impossible. Vous ne pouvez pas bousiller le plan de Dieu pour votre vie. Vous pouvez faire des mauvais choix qui ont des conséquences et Dieu peut s'occuper de vous châtier, comme nous avons lu ce matin, il châtie les enfants qu'il aime. Vous pouvez faire des mauvais choix qui ont des mauvaises conséquences, mais vous ne pouvez pas bousiller le plan de Dieu pour votre vie ni pour l'univers. Dieu a un plan pour notre vie, il a un bon plan pour notre vie, mais il ne s'est pas engagé à nous le dévoiler dans tous les détails au préalable. Un jour, il va nous donner le pourquoi de tout. Mais pour l'instant, il ne s'est pas engagé à vous dire exactement de quoi sera fait demain. Il vous demande de lui faire confiance. Et cela, c'est peut-être utile de revenir à ce que les théologiens ont souvent enseigné. Les théologiens font une distinction entre la volonté révélée de Dieu, parce qu'on parle de la volonté de Dieu ce matin, les théologiens font une distinction entre la volonté révélée de Dieu et puis ce qu'ils appellent la volonté souveraine ou la volonté secrète de Dieu pour le monde. La volonté révélée de Dieu, ça concerne ce qu'il attend de nous, ses commandements, sa volonté, ses instructions. Et ça, ce que nous avons dans sa parole. Ça, c'est sa volonté révélée. Et c'est cette volonté qui peut nous conduire. Après, il y a la volonté souveraine, la volonté secrète, qui concerne ses décrets, qui concerne sa souveraineté. Et ça, il s'agit des choses que nous n'aurons pas toujours, nous, accès à cette volonté secrète, justement. Elle est secrète, elle est dans la pensée de Dieu, pour nous rappeler que nous ne sommes pas Dieu, Dieu est Dieu. Et là, il y a des questions comme, pourquoi le mal, pourquoi Satan, comment toutes choses vont concourir au bien un jour dans ma vie? Pourquoi telle souffrance? Pourquoi telle épreuve? Pourquoi ils ont tué Jésus alors qu'il fallait pas, normalement il faut pas tuer? Toutes ces choses concernent la volonté secrète. Et une des erreurs que nous chrétiens nous faisons, c'est que nous pensons que pour faire un choix, nous pensons que Dieu doit nous révéler son plan, sa volonté secrète, sa volonté souveraine, et nous attendons qu'il nous le révèle avant de faire un choix. Mais voilà, on n'a pas besoin de ça pour avancer. Il nous a donné des instructions, il nous a donné une volonté révélée, et puis il nous demande d'avancer. Donc, voilà quelques méthodes ce matin qui ne sont pas utiles, ou qui ne doivent pas primer pour nous aider à choisir la bonne voie. Mais si ce n'est pas ainsi que nous devons avancer, comment Dieu nous guide? Comment il répond à cette prière? Comment il conduit David? Eh bien, voici quelques bonnes méthodes que je vais vous donner pour choisir la bonne voie. Tout d'abord, il y a la voie de l'obéissance. Et je vous montre ce verset, verset 12, que je crois être un peu des versets clés de ce psaume. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? C'est à celui-là, c'est à celle-là que l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ici, nous découvrons que la priorité, c'est de craindre l'Éternel. Et dans la Bible, craindre l'Éternel, c'est lui donner la priorité de notre vie. C'est le connaître, c'est écouter sa voix, sa parole, c'est mettre en pratique ses instructions. Et finalement, nous découvrons dans ce psaume que la question n'est pas tant « qu'est-ce que je dois faire, là ?» mais « qui dois-je être ? » Quel genre de personne, quel genre d'homme, quel genre de femme dois-je être pour que Dieu me montre les voies à suivre ? Et le psaume nous donne un portrait de l'homme à qui Dieu révèle sa volonté. C'est l'homme qui craint l'Éternel. Cela veut dire qu'on devrait passer plus de temps à cultiver une connaissance de Dieu, un amour pour sa personne, pour sa parole, que d'essayer de deviner les détails spécifiques pour sa vie, son plan pour nous. Nous devons passer plus de temps à cultiver cette crainte qui aime obéir Dieu que d'essayer de deviner les détails spécifiques de son plan pour nous. Je peux vous donner un exemple ou une illustration, en tout cas pour vous aider. Si votre trajet quotidien à la maison, au travail, si vous devez traverser Toulouse, par exemple, vous devez partir du nord de Toulouse pour aller dans le sud à Rangueil, par exemple. Vous n'appelez pas chaque matin le maire de Toulouse ou la police de Toulouse pour savoir si vous devez passer par le périph' extérieur ou le périph' intérieur pour aller à votre travail. Le maire de Toulouse s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est que vous respectez le code de la route, c'est que vous utilisez les outils à votre disposition, c'est que vous contribuez au bien de la cité, de la société, en aimant vos prochains, en respectant les autres conducteurs sur la route, voilà, et en allant au travail. Mais que vous passez par le périph' extérieur ou intérieur, c'est pas sa préoccupation majeure. Et j'aimerais vous dire ce matin, ça peut peut-être vous libérer, c'est que les voies, les sentiers, la volonté de Dieu pour nous sont ainsi. les voies de Dieu ici, les sentiers de Dieu dans ce psaume, sont des manières de vivre qui plaisent à Dieu. Ce sont des principes, des préceptes, des vérités qui nous protègent et qui nous guident, mais après qui nous laissent une grande liberté d'action pour plaire à Dieu. Et c'est très différent des méthodes que nous avons vues, notamment les méthodes superstitieuses, les méthodes paralysantes, les méthodes sentimentales. Par exemple, marcher dans les voies de Dieu, nous savons, c'est par exemple c'est vivre célibat, de manière célibate et pure avant le mariage. C'est vivre de manière fidèle si on est marié à son époux, son épouse. Marcher dans les voies de Dieu, c'est être intègre dans nos rapports avec les autres, notamment au travail, dans le monde professionnel, être intègre, droit, innocent. Marcher dans les voies de Dieu, c'est être généreux avec notre argent, avec notre pardon. Voilà les sentiers, les voies de Dieu que Dieu nous a révélés et que Dieu veut nous instruire. C'est ces voies-là que Dieu, que David réclame. Qui concernent la vérité, la justice, la bonté, les commandements de l'Éternel. Et une fois que vous avez ces principes en place, j'ai envie de vous dire, allez-y, faites. Faites quelque chose pour Dieu. Vivez votre vie. Prenez soin de votre famille. Aimez votre église. Faites le vidange de votre voiture. Mangez au restaurant. Toutes ces choses, au lieu de paniquer sur savoir si telle ou telle chose est la volonté de Dieu, mettez l'accent sur la voie de l'obéissance, craindre l'Éternel. Ça, c'est une méthode qui va vous conduire. Ensuite, il y a la voie du pardon et de grâce, qui revient souvent dans ce psaume. J'ai réfléchi sur le lien entre beaucoup de versets qui parlent du pardon et cette demande de marcher dans les sentiers et dans les voies de Dieu. Vous avez vu à quel point le pardon revient, verset 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Verset 11. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Verset 18. Vois ma misère et peine, et pardonne tous mes péchés. Donc, avec cette requête principale d'être conduit dans les voies de Dieu, on trouve aussi David qui parle beaucoup de pardon. Il me semble que de vivre dans la voie du pardon et de la grâce de Dieu est très important pour connaître ses sentiers et ses voies. Si on trimballe une culpabilité, avec souvent les regrets d'amertume qui sont liés à cette culpabilité, c'est sûr on fera des mauvais choix dans la vie et on aura du mal à avancer. Je pense un peu comme un athlète qui a vécu une chute. Et chute, il a parfois du mal à se remettre au sport où il a peur. Et donc, il ne pratique plus. En tant que chrétien, nous pouvons connaître des chutes. Mais il faut saisir le pardon et la grâce de Dieu pour se remettre dans le bon chemin et avancer. Alors, c'est vrai que la voie de l'obéissance nous conduit. Mais il y aura des moments où nous allons échouer, nous allons nous égarer, nous n'allons pas obéir. Et David est pleinement conscient, c'était le cas de sa vie. Quand il pense à son passé, sa jeunesse, les fautes et les transgressions de sa jeunesse qui peuvent peser sur nous, une chape de culpabilité qui nous paralyse. Mais on découvre dans ce psaume que Dieu guide justement ceux qui se reconnaissent pécheurs, ceux qui se reconnaissent faibles, ceux qui savent qu'ils sont prompts à s'égarer, mais qu'ils ont besoin d'être ramenés par Dieu et de vivre dans son pardon. Alors, saisir le pardon, c'est capital pour marcher dans les voies de Dieu. Et ça nous permet de repartir avec lui à tout moment. Et enfin, j'aimerais parler de la voie de l'amitié. Pour choisir la bonne voie, il y a la voie de l'obéissance, il y a la voie du pardon et la grâce, mais aussi et surtout la voie de l'amitié avec l'Éternel. David est tellement sûr du pardon de Dieu qu'il peut parler de l'amitié de l'Éternel, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Peut-être c'est la meilleure façon de s'orienter dans la vie, c'est de se dire, nous avons un ami qui marche à nos côtés et je veux préserver cette amitié. Donc les activités, les choix de vie, qu'est-ce qui va me permettre de vivre au mieux une amitié avec l'Éternel, avec le Dieu de l'univers? Et ce qui est formidable pour nous, chrétiens, c'est que nous savons, nous voyons comment Dieu a garanti cette amitié auprès de nous, comment son alliance nous donne instruction. Si David pouvait parler de l'amitié de l'Éternel, combien plus nous qui avons vu Dieu descendre sur la terre, Dieu se manifester en Jésus-Christ pour devenir notre ami, pour marcher dans les sentiers, déjà nous devancer et puis pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Jésus-Christ est la réponse à cette soif d'amitié, d'avancer dans les voies avec un ami à nos côtés qui peut nous conseiller, nous orienter. Déjà, c'est ça, un bon ami dans la vie, quelqu'un qui peut vous donner conseil, quelqu'un qui vous encourage à avancer ensemble, quelqu'un qui vous tire dans le bon sens. Et Dieu, il devient cet ami pour nous. Et lorsque nous vivons une proximité avec lui, une relation avec lui, la voie se trace d'elle-même parce qu'il nous le montre. Jésus-Christ est la réponse à cette prière que Dieu puisse nous faire connaître ses voies, qu'il puisse nous faire connaître son chemin. Et comme ça a été dit ce matin, c'est Jésus-Christ qui est venu pour être le chemin, pour être la vérité et la vie pour nous. Et par sa mort à la croix, par sa résurrection, il nous offre le chemin qui mène vers Dieu. Et dans nos choix de vie, nous pouvons nous orienter grâce à cette amitié, ce chemin-là qui est Jésus-Christ. Alors je vous laisse une dernière image ce matin, peut-être qui peut vous aider, mais pensez à la croix. Et cette fois, pensez à la croix comme une flèche qui vous montre la voie. Jésus-Christ, cette croix représente pour nous ce qu'il a fait pour nous, son amour pour nous, cette alliance qui nous donne instruction. Cette croix représente pour nous le désir d'être notre ami, ce qu'il a fait pour rendre cette amitié possible. Mais maintenant, cette croix, elle nous indique le chemin à suivre jour après jour. Cette croix nous indique le chemin pour connaître Dieu, pour être réconcilié avec lui. Mais cette croix aussi nous indique le chemin pour nos rapports les uns avec les autres, en famille. Si vous voulez savoir comment il faut se comporter quand vous rentrez du travail et vous êtes en famille à la maison, pensez à la croix et ce vie de sacrifice, d'amour, de renoncement que Jésus a vécu. Et ça va vous aider encore cette semaine. Quand vous voulez savoir comment agir avec les collègues, comment maintenir une patience ou une douceur, un amour ou une intégrité auprès d'eux, eh bien, la croix encore pointe le chemin et agit comme une flèche, un panneau pour nous. Donc ce matin, Dieu veut nous montrer la bonne voie à suivre. Dieu veut nous faire connaître ses voies. Et ses voies se trouvent dans sa parole et en Jésus-Christ et dans une amitié avec lui. Et c'est ainsi que nous pouvons lui plaire, c'est ainsi que nous allons pouvoir vivre encore cette rentrée et les projets à venir. Avec sa présence et sa bénédiction. Et après, quand il est en premier dans notre vie, le reste, il nous offre une grande liberté d'action pour faire les choix qui l'honorent et qui font connaître son nom aux autres. Je vous invite à terminer avec moi dans la prière. Seigneur, encore ce matin, notre prière à tous, c'est que tu nous révèle ta volonté, que tu nous aides à marcher dans tes voies. S'il y a des personnes ici qui sont face à des choix importants, je te prie que tu les inspires et qu'il y a des principes dans ta parole qui peuvent les aider à faire le bon choix, le choix qui te glorifie. Seigneur, nous voulons bien sûr et surtout prioriser nos choix. On peut passer beaucoup de temps à choisir quelle école, quel emploi du temps, mais si on n'a pas pris le temps de se poser la question, quelle éternité nous allons faire les mauvais choix. Et ce matin, s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore choisi la voie de la vie, la voie d'une éternité avec toi, le chemin qui est Jésus-Christ, nous te prions de les aider à choisir cette voie. Toutes les autres voies mènent à la mort et à la séparation avec toi. Et forcément, on se conduit mal dans ces voies-là. Mais avec Jésus-Christ comme ami, comme guide, comme Dieu, comme sauveur, nous pouvons discerner ta volonté pour toute chose dans notre vie. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guide et donne-nous un amour, une soif encore à connaître cette parole et la diffuser autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.